La désobéissance civile, c'est le thème de ce numéro, les jeudis en question avec le collectif de Marcillac-Vallon. Invité cette semaine, Jean-Baptiste Liboulan, membre fondateur des Faucheurs Volontaires.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.
À la fois de lutte non violente, parce que j'étais engagé au Larzac, puis dans beaucoup d'autres luttes, plus 50 ans, mais surtout à partir d'espérance des Faucheurs Volontaires. Donc moi, je dirais le premier ressort d'une action telle que les Faucheurs, pour moi c'est l'indignation. Pour moi c'est le ressort de la non-violence, c'est l'indignation. S'il n'y a rien à l'intérieur qui bouillonne, eh ben ça va, vous êtes tranquille, vous pouvez être prêt, vous êtes prêt à tout accepter, ça vous dérange pas, on peut continuer comme ça. Voilà. Pour moi l'indignation, ça non, c'est inacceptable. Ça je peux pas. Ça pour moi, ça c'est le ressort fondamental. Mais qui conduit à un engagement ? Ouais, c'est bien, ouais, on n'est pas d'accord, ouais. Ils écrivent ça dans les journaux, partout, quoi. Mais ils ne bougent pas, quoi. Non, si ça veut dire que tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu vas te lever de ta chaise, pour ne pas mettre des mots grossiers, quoi. Ouais. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris que, pour moi, la pensée, la parole, l'action, c'est une unité. Pour moi, c'est aussi un peu ça, un peu comme disait Jim Baou au Larzac, quand les Kanaks venaient nous enseigner un peu ce que c'était aussi, que la parole, elle doit être habitée, quoi. Alors, voilà un peu les conditions des... La première chose, pour moi, c'est l'indignation. Et l'indignation, elle doit se fonder sur quelque chose. C'est vrai que moi, quand dans les procès de José à Montpellier, j'ai entendu Bernie Schmeiser, paysan au Saskatchewan, au Canada, dire... J'ai été contaminé et c'est moi qui ai été condamné. Moi qui ai été condamné. Alors, ce qui nous arrive chez nous aujourd'hui, ça vous arrivera aussi demain. Et pourquoi il avait été condamné, Percy Schmeiser ? Parce que Monsanto avait un brevet sur le colza transgénique qui a contaminé le colza de Percy Schmeiser. Et comme ils ont détecté ça, eh bien, il n'avait pas payé les royalties. Parce que ça ne suffit pas de prétendre à avoir une solution pour résoudre la faim dans le monde, pour faire tout ce que vous voulez, lutter contre la sécheresse. Si c'était que ça, on pourrait comprendre. Non, mais chers amis, attendez, on ne travaille pas pour rien quand même. Donc, après, il y a la pression qu'on met sur les gens. Et là, j'ai compris. Et j'avais entendu aussi Jean-Pierre Berland nous parler, qui est de l'INRA, et dire, vous savez, les plantes, elles ont la malheureuse propriété de se reproduire gratuitement dans le champ du paysan. Et ça, pour les semenciers, vous savez, c'est inacceptable. Alors, à partir de là, j'avais fait mon choix. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a toujours une question d'information. Je pense que maintenant, c'est pas seulement en lisant le journal qu'on peut trouver ce qu'on cherche. On doit chercher aussi à côté et se faire un avis, se faire une idée. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est une recherche pour trouver la vérité. Parce que c'est à partir de là, si vous avez une base scientifique, tous les cas, moi, sur les OGM, j'ai eu besoin de comprendre. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait au niveau des rouages et du gouvernement, j'étais complètement ahuri. J'étais indigné au départ, mais après, je me disais, mais c'est pas possible. Parce qu'en France, on est quand même, on est des gens bien. On a des commissions pour vérifier si c'est bon pour la santé. Ça s'appelait la commission du génie biomoléculaire. Commission fondée avec des scientifiques, c'est quand même pas rien, quand même. Des bons scientifiques, quoi. Ils n'ont jamais contesté un OGM. Seulement, ils n'avaient pas l'argent pour faire des expériences indépendantes. Et donc, c'était à partir des expériences que leur fournissaient Monsanto ou les autres qui donnaient un avis au gouvernement. Sans compter qu'ils sont tous consultants dans un certain nombre de... Pas tous, mais un certain nombre. Sont consultants dans... un certain nombre d'entreprises biotechnologiques, comme c'est le cas pour la Commission européenne aussi, d'ailleurs. Donc, on se dit, ah non, mais alors là, ça va plus. Déjà, ils n'ont pas les moyens de faire une expertise indépendante. L'État ne fait rien, n'informe pas, il n'y a pas de débat à l'Assemblée sur la question. Je dis, mais alors, pourquoi ? Alors, quand vous étudiez le problème et que vous voyez effectivement que ce n'est dans le cadre d'une agriculture industrielle performante, que les OGM se sont développés pour répondre à l'insuffisance du rendement d'une agriculture américaine qui piétinait parce que entre les engrais et puis les herbicides, les pesticides, ça ne donnait plus rien, et que Monsanto sort son joker et dit « Moi, j'ai la réponse. J'ai les plantes qui vont résister d'elles-mêmes aux herbicides. J'ai les plantes qui vont produire après leur propre insecticide. » Et que vous voyez qu'au bout de 2 ou 3 ans, même aux États-Unis maintenant, c'est loin d'être une vérité. Et quand vous voyez qu'il y a le jeu du brevet derrière, vous pouvez honnêtement vous poser des questions. Donc je pense que la question de l'information est une question extrêmement importante dans une démarche civique. Et moi, j'ai écouté vraiment beaucoup d'avis. Hein, je ne suis pas. Je pense que la loi, elle est faite, c'est cet organe de régulation entre les citoyens et les choses, et qui n'est pas faite pour être au service de quelques-uns contre tous, que c'est pour le bien commun. Enfin, du moins, je croyais encore ça. Enfin, j'essaie toujours de le croire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis faucheur volontaire. J'essaie toujours de croire que la loi est faite pour le service de tous. Donc à partir du moment où la loi protège des intérêts particuliers contre le bien commun, où le gouvernement laisse faire pour des raisons économiques, parce qu'on est dans un système avec des lois, avec une OMC qui oblige à produire beaucoup, vendre beaucoup, etc., on est obligé d'avoir à un moment un regard sur la loi. On est obligé. On ne peut pas dire j'ai délégué à des députés le soin de faire des lois quand on répète ça continuellement dans les procès. Je dis, mais moi je reste toujours responsable de ce qui se passe autour de moi. Je ne sens pas. J'ai délégué, mais il arrive aussi que les citoyens arrivent à faire changer la loi. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle ça des obéissances civiques. Et puis les juges aussi peuvent changer la loi. Donc notre regard sur la loi, notre regard sur le fonctionnement démocratique ne nous enlève absolument pas notre responsabilité personnelle de ce qui se passe autour de nous. Pour moi, c'est... Voilà. Alors qu'est-ce que... Alors voilà. Alors c'est la fatalité, il n'y a plus qu'à laisser faire. Bon, c'était une solution. En tous les cas, ce n'est pas la mienne. Quoi, hein. Je pense que là, on a à réfléchir qu'est-ce que c'est que la loi, quelles sont nos institutions, est-ce qu'il y a dans les lois quelque chose qui nous permette justement de désobéir en conscience. Moi, je crois que ça aussi, c'est le fondement du citoyen. Et ça, c'est à regarder. Et on voit que chez nous, moi, ça a été extrêmement intéressant avec les faucheurs, c'est que j'ai vu que nos avocats savaient sortir... il y a un premier travail d'information scientifique, et puis du gouvernement. Après, il y a un travail d'information sur la loi, sur le droit. Je pense que tout ça, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de ce qui est légal et de ce qui est légitime. C'est une première question. Je crois, comme on l'a dit dans la petite présentation, que pour qu'une loi soit respectée, il faudrait qu'elle soit respectable. Elle est faite pour qui, là ? Est-ce que l'homme est fait pour la loi ou la loi pour l'homme. C'est pour moi, c'est une question de fond. Il ne s'agit pas d'avoir des institutions, mais c'est pour... Est-ce que c'est pour fonctionner? Pour qu'on se tienne tranquille? Je crois qu'il est grave... Pour moi, si j'avais qu'une phrase à vous dire, ça c'est celle que je vais dire maintenant. Je pense qu'il est grave de désobéir à la loi, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans loi, tant qu'on n'est pas, je dirais, humainement suffisamment tous responsables. On a besoin encore de lois. On a malheureusement encore besoin de lois. Moi, je voudrais bien qu'un jour, on n'ait plus besoin de gouvernement, qu'on n'ait plus besoin de lois. Je pense que là, ça serait extraordinaire. Qu'on arrive à s'entendre entre nous tout le temps, à gérer nos problèmes. Mais dans l'état immédiat, ce n'est pas le cas. Donc, qu'on cherche les meilleures lois possibles. Donc, s'il est grave de désobéir à la loi, parce que c'est une entente entre nous, ça doit être une entente. Là, pour moi... Il est encore plus grave de ne rien faire, de ne rien dire, quand c'est le bien commun qui est en question. Voilà. Bon, en vous disant ça, je vous dirais, je pourrais m'arrêter là, ça me suffit. Bon, je vous dis l'essentiel de ce que j'ai à vous dire en disant ça. C'est, pour moi, ça, c'est le fondement. C'est l'essentiel, quoi. Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, on est là, Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors c'est vrai que, bon, pour ce qui est particulièrement du fauchage, on a dans la Constitution le principe de précaution, qui dit que les citoyens n'ont pas seulement des droits, mais aussi des devoirs. Et des devoirs pour faire respecter l'environnement. C'est intéressant, ça, que ça soit dans le principe de précaution, ça veut dire dans les principes de la Constitution. La liberté, égalité, fraternité, droit à la propriété. Et dans cette propriété, il n'y aurait pas le droit à la propriété collective de la terre qui nous appartient à tous et qu'on doit respecter. Ah, c'est intéressant, ça. Et Pierre, nos chers avocats, ils ont trouvé que même dans le droit français, il existe l'état de nécessité. Vous savez, quand j'étais enfant, on me disait « nécessité fait loi ». Et bien là, c'est l'inverse qu'ils ont fait. La nécessité fait du droit. Ouais, effectivement, la loi... ça veut dire qu'un acte... On arrive sur la question morale, quelque part. Il faut l'aborder. Un acte qui est moralement inacceptable dans la vie courante devient juste lorsqu'il est ordonné au bien commun ou parce que vous êtes en état d'extrême. Et en état extrême, vous n'avez pas d'autre réponse pour éventuellement défendre votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, ou une situation effectivement ultime. Alors, c'est venu comment en droit français? C'est venu qu'une femme a volé du pain en 1955 à Mulhouse, par là, en tout cas c'est le tribunal de Mulhouse qui a dit ça, dans une boulangerie pour nourrir ses enfants. Elle est passée en tribunal. Et les juges l'ont relaxé. Parce que c'était pour nourrir ses enfants. Donc c'est ça l'état de nécessité. Donc c'est vrai que si je devais taper sur la tête de mon voisin, parce que j'en ai marre de le voir devant moi, c'est fatigant quand même, quoi. Bon, mais ça non. Mais si lui, si je le tape dessus parce qu'effectivement il y en a quelqu'un d'autre qui veut taper sur sa voisine, pour l'empêcher de taper ou pour l'empêcher lui de taper sur la voisine, là c'est ordonné au bien commun. Non, le droit c'est quelque chose qui n'est pas un absolu. Il faut qu'on réfléchisse sur le droit. Il dépend des situations. Vous avez l'habitude, sur les routes, de désobéir comme moi de temps en temps d'ailleurs. Ce n'est pas une désobéissance ni civile ni civique. Il y a des lignes blanches. Il ne faut pas les franchir. Il y a un gendarme qui a dit à mon père, « Monsieur, la mur blanche, c'est un mur !» Parce qu'il avait passé une ligne blanche avec... Voilà, ça lui a coûté je ne sais pas combien de francs à cette époque-là. Mais s'il y a un véhicule qui est dans le couloir où vous êtes et qui bloque la circulation, d'un seul coup, ce mur s'écroule et vous pouvez passer. Donc ce n'est plus un obstacle infranchissable. C'est quand même intéressant. Et le droit de propriété, vous savez qu'il est... C'est vraiment... C'est le summum de notre société, quelque part. Hein? C'est... Il y a des raisons, d'ailleurs, ce n'est pas complètement faux. Hein. Mais vous n'êtes jamais complètement propriétaire de votre bien. Vous ne pouvez pas ouvrir une fenêtre de votre maison sur la maison d'en face, par exemple. Si ça gêne celui d'en face, ça veut dire que votre maison, vous ne pouvez pas en faire complètement tout ce que vous voulez. Et si vous avez une rivière qui passe dans votre jardin, vous n'avez pas le droit de prendre toute l'eau de la rivière. Pourtant, elle passe dans votre jardin, je pouvais prendre de l'eau. Oui, mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Non. Les droits sont relatifs aux situations, etc. Et ils sont évolutifs. La loi n'est jamais qu'une forme de la vérité dans le temps et dans l'espace. Les femmes n'avaient pas le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Elles n'avaient même pas de responsabilité familiale. Enfin, c'était quand même extraordinaire. La dépénalisation de l'avortement est quelque chose de récent. Et c'est quand même des femmes qui l'ont fait venir aussi, pour affirmer le droit à avoir une responsabilité dans la vie. C'est quand même c'est une minorité agissante qui a fait changer le droit. Donc, il y a des choses qui nous paraissent moyenâgeuses chez les autres, encore actuellement dans d'autres pays du monde, mais qu'on pratiquait très bien chez nous il y a 200 ou 300 ans. Donc, c'est souvent les minorités agissantes qui font transformer le droit, qui font comprendre que là, il y a quelque chose qui est inacceptable, qui ne correspond plus à notre époque, qui ne correspond plus à la situation sociale, et que donc qui ne correspond plus à un règlement interne, à cette relation la plus positive possible entre les personnes et les biens. Ça, c'est constitutif du droit. Alors maintenant, bon, je ne vais pas trop m'attarder non plus sur tout ça, on pourra y revenir. La désobéissance des faucheurs, par exemple, oui. Est-ce que ceux qui désobéissent, parce qu'on va aborder aussi d'autres questions éthiques, le font par profit personnel? Est-ce qu'ils gagnent quelque chose à ça? Est-ce que c'est par plaisir qu'ils détruisent? Est-ce que c'est par commodité? Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Je pense que là, on a trois critères déjà pour arriver à poser au niveau éthique la valeur de la désobéissance civile. En général, les faucheurs et ceux qui désobéissent, dans, que ce soit les barbouilleurs de pub, que ce soit ceux du DAL, que ce soit, etc., les Robins des Bois et autres, aux désobéisseurs de l'éducation nationale, en général, ils sont redevables dans la loi de l'acte de désobéissance qu'ils ont commis. Donc en général, ils n'ont rien à y gagner. Donc ils ne le font pas par profit. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est un premier argument qu'on ne peut pas leur opposer. Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a une rage contre la société, contre tout? Oui, mais alors si c'était ça, pourquoi les faucheurs ne détruisent pas aussi les tracteurs, les maisons des paysans, etc.? Pourquoi ils respectent les forces de l'ordre? Pourquoi ils n'envoient pas des injures, des cailloux, des tapas avec des barres de fer sur les forces de l'ordre? Et même sur les paysans qui viennent parfois s'opposer à eux. Donc, je renie pas complètement la notion du plaisir de l'acte bien fait. Moi, je suis content quand j'ai bien fait mon travail. Mais je ne suis pas content de détruire une récolte. Et c'est une nuance importante. Mais ça coûte. C'est pas donné. Est-ce que c'est par commodité? Et là, on arrive sur une autre question démocratique, la commodité, ce qu'on aurait pu faire autrement. Alors, quand vous avez essayé tout ce que la démocratie met entre nos mains à tous, c'est-à-dire les pétitions, les informations dans le journal, les visites dans les ministères, les tracts dans la rue, les manifestations de tous ordres, et que ça ne bouge pas, parce que c'est la politique de « chante toujours par une cage neuve », qui est le propre de nos sociétés démocratiques occidentales, alors qu'ailleurs c'était « tu te la fermes, quoi, hein. Ferme-la ». Alors, quand vous avez épuisé tout ça, mais qu'est-ce qui vous reste pour assumer votre responsabilité, si vous croyez que vous devez l'assumer? Qu'est-ce qui vous reste? Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. La désobéissance civique, en tous les cas, est un moyen. Moi, je ne prétends pas que c'est la panacée, que c'est ça qui répond à tout, que c'est comme ça qu'il faut faire tout le temps, parce que c'est exigeant. Je pense que ça exige, à un titre personnel, d'abord... Si on veut que ça soit une désobéissance, je dis civique. Parce que je dis c'est fait pour changer la loi. C'est fait pour changer une politique. Ça veut dire qu'on va le faire à visage découvert, qu'on ne va pas fuir, qu'on va dire oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, j'assume ma responsabilité. J'ai fait ça. Je l'ai fait. Et je le fais exprès. Parce que je veux passer aussi devant le tribunal. Et j'espère être laxé même pour ça. Parce que l'erreur, elle est ailleurs. La désobéissance, elle est ailleurs. Alors oui, d'accord. Alors, je le fais à visage découvert, parce que si tu le fais de nuit, si tu te caches, on n'en parlera pas. C'est certain. Plus tu le fais à visage, plus tu le fais comme ça devant tout le monde, plus on va en parler. C'est pas pour le goût du martyr, moi je ne cherche pas les coups. Moi, je suis très bien, j'ai 12 petits-enfants... Ils sont contents de jouer avec moi, et moi avec eux d'ailleurs. Donc vraiment, j'ai de quoi m'occuper, j'ai un tas de choses que j'aime faire. C'est pas... Mais non. D'ailleurs, mes petits-fils, ils me disent « Alors, grand-papa, quand est-ce que tu vas en prison ?» Ils me disent « Quand tu vas en prison ?» Bon, ça les amuse follement. Donc là, je crois qu'il y a des règles éthiques, quoi, pour celui qui veut que ça soit une action démocratique, citoyenne, responsable, civique, pour que ça transforme. C'est vrai que le risque qui est pris est aussi médiatisé. C'est vrai que les médias ont leur poids là-dedans. Et que c'est un jeu dangereux avec les médias. Les médias peuvent très bien essayer de faire de vous des perturbateurs, des petits... des petits casseurs qui sont là, qui prennent plaisir justement à casser, quoi, hein. Des vandales, comme a dit le ministre de l'Agriculture après que nous ayons sectionné les vignes de Colmar. Vandalisme. Je ne sais pas s'il y a un vandalisme scientifique. Je ne sais pas si tout ce que fait la science et qu'elle met entre les mains des gens qui font de l'argent avec, si cette chose-là est positive. Je ne sais pas si le fait de donner le droit à ceux qui ne devraient pas l'avoir, c'est positif. Pour moi, c'est des énormes erreurs qui nous conduisent aux impasses que nous connaissons maintenant dans d'autres domaines, comme le nucléaire et d'autres. Pour moi, tout est lié. C'est le même système qui fonctionne. Et on met le doigt sur un système. C'est tout. C'est l'argent qui est derrière le pouvoir. Et l'État est très content, et ça marche, et tout le monde marche, et les scientifiques disent aussi que c'est très bien, et voilà. Bon, et ça marche, très bien, allons-y. Ouais. Alors, je crois qu'on a à se réapproprier le droit, ça appartient aux citoyens, on a à se réapproprier, je dirais, bah, les faucheurs, pas plus que ceux qui ont... J'ai été témoin, on m'a demandé d'être témoin pour les filles et les garçons là, qui s'étaient couchés sur les voies pour empêcher que le train de déchets nucléaires aille jusqu'en Allemagne pour enfouir les déchets, et qui ont été grièvement blessés par les forces de l'ordre, qui ont traités d'une façon absolument sauvage. Ils leur ont coupé les tendons, ils leur ont brûlé au troisième degré, toutes sortes de choses dont la presse ne parle pas, quoi, hein, et qui sont arrivés avec leurs mains, avec leurs pansements dans les mains, comme ça. Et ce pauvre juge qui disait « C'est vraiment des pansements que vous avez ?» Ah oui, ça, il y a des fois, ça fait mal. Hein, quoi. Alors je pense qu'on a à se réapproprier et qu'on ne l'aura pas facilement, ça. Qu'on ne l'aura pas facilement. Mais je ne crois pas non plus que la désobéissance civique... D'abord, on est quand même dans un régime, il faut reconnaître. On est en sous-totalitarisme. On n'est pas dans le totalitarisme, bien qu'il y ait partout des centres de rétention qui se multiplient, tout ça. Partout, un essai de contrôle des juges, etc. Bon, on pourrait faire l'état judiciaire de la France et du... Mais on n'est pas dans le totalitarisme. On peut dire, moi je peux vous parler librement, on m'arrête pas à la sortie. Vous êtes là demain, vous n'êtes pas nécessairement fiché. Mais on a quand même voulu me ficher. J'ai refusé, j'ai quand même été relaxé. C'est quand même une première de cassation qui a permis, à la fois contre ce fichier Edwige, mais c'était un autre fichier, hein, ne se remplissent pas, quoi. Tout ce contrôle des citoyens, etc. C'est tout ça, hein. Non ? En refusant de donner mon ADN, et tous les faucheurs et tous les autres qui le refusent, ont fait avancer le droit. C'est à nous de nous réapproprier ça. C'est notre... Sans ça, demain, mais qu'est-ce que feront nos enfants, quoi ? Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, c'est vrai que un des préalables, ça devrait être le dialogue. Mais le dialogue, parfois, vous ne pouvez pas l'avoir, parce que c'est déjà tellement enfoncé que vous ne pouvez pas avoir le dialogue. Mais on a eu des dialogues avec un des paysans chez qui on a vu. On a rarement fauché chez les paysans. On a fauché chez un paysan qui était un promoteur des OGM. C'est vrai que chez lui, on lui a fauché 12 hectares. Et il l'a senti passer. Hein. On a toujours payé les dommages et intérêts. Donc ça ne lui a rien coûté, quelque part. Mais avec lui, on a pu avoir un dialogue. Après, justement, le dernier procès d'Agen, là où j'ai eu droit... Et encore, les juges ont été tendres. Parce que les juges ont été tendres à ce projet d'Agen. On était en récidive et on méritait les 2 ans de peine plancher qu'ils ne nous ont pas octroyés. Ils ont justifié qu'on n'avait pas droit à la peine plancher. Si on était d'accord pour qu'on ne nous donne pas la peine plancher en nous appuyant sur la loi sur les fauchages de 2008. Bon, parce que même les juges... Ouais, que ça soit chez les juges, chez les procureurs, parfois chez les avocats de la partie adverse, chez les gendarmes. Mais il y a un tas de gens qui sont d'accord avec nous. C'est ça aussi que moi je voudrais dire, que c'est pas tous pourris. Ouais. Après mon procès de Toulouse, avec un avocat, lequel on va au bistrot, prendre un pot. Qu'est-ce qu'on voit au fond du bistrot? Le procureur, avec l'avocat, la partie adverse. On leur dit, est-ce que vous permettez qu'on se mette à table avec vous? Il me dit, bien sûr, asseyez-vous. Et je dis à l'avocat de la partie adverse, mais dites donc, vous nous avez fait un réquisitoire, là, une défense terrible. Hein. Dites donc, vous êtes dangereux. Hein. Il me regarde en souriant. Il me dit, mais j'aurais pu faire 10 fois plus. C'est un mercenaire. Il est payé pour ça, il le fait, il fait son boulot. Et le procureur, ce n'était pas quelqu'un qui voulait nous assassiner du tout. Plusieurs fois, j'ai vu des procureurs qui ont essayé de nous défendre, même d'ailleurs encore à Agen, pratiquement, contre les juges qui nous ont jugés. Ce sont les juges qui nous ont condamnés, pas les procureurs. Ils ont cherché des réponses. Je peux dire que le lieutenant de gendarmerie de Bellerieux a tout fait pour que je ne passe pas en prison au procès d'Agen ou de Marmande. Parce qu'il savait que je risquais la peine plancher. Et j'étais même entendu avec le juge d'instruction. Et je disais, non, mais moi je vais y aller, il n'y a pas de raison pourquoi je n'irai pas les autres y vont. Alors quand je suis arrivé dans le bureau de la juge d'instruction, je l'ai regardé, on s'est souri, je lui ai dit, mais madame, il faut que je vous poursuive pour que vous me poursuiviez. Et on a déliré pendant 2 heures. Et c'est comme ça que, pour la première fois de ma vie, j'ai envoyé mes voeux à un juge d'instruction. Bon. Alors, ça aussi, je pense que c'est extrêmement important de savoir que c'est pas tout d'un bloc. Que ça, c'est extrêmement important de savoir. Chez les politiques, chez tout le monde, c'est pas tout d'un bloc. Je ne vous dis pas ce que m'a dit un jour le directeur des renseignements généraux de l'Aveyron. Je partais avec des fleurs, comme ça, un bouquet de fleurs, comme ça. Non, pour ça que, avec ça, il faut faire attention. Quoi. Avec ça, il faut faire extrêmement attention. C'est... Avec les gendarmes, c'est très fréquent. On se serre la main des fois après, donc salut, hein. Au revoir. Bon. Non, je veux pas dire que, comme m'a dit un gendarme, il y a des cons partout. Quoi. Je suis désolé de dire ça, hein, vraiment. Hein. Bon. Non, mais bon, il y en a partout, hein, c'est pareil. Hein. Donc, mais n'ayons pas un regard comme ça, tout le bien est d'un côté et tout est négatif de l'autre. C'est pour ça qu'il y a aussi des choses qui sont possibles. Mais il faudra peser dans la balance. Il faudra peser, un peu comme le gage de schiste, il faudra rester sur le terrain. Parce que sans ça, ça ne se fera pas. Quoi. Alors bon, bien sûr, on pourrait regarder l'histoire Antigone. Ce que j'aime quand même dans la Boétie, c'est une petite phrase de la Boétie quand même, c'est que les rois, les gouvernants, n'ont de pouvoir que celui que nous voulons bien leur accorder. Et je pense que quand on a savouré ça, ça a du goût. Ça, on se dit, c'est vrai que Montaigne n'aimait pas trop ça, hein, il n'a pas trop aimé. Mais c'est bien quand même. Hein. Voilà. Alors pour moi, je dirais, on ne va pas trop m'attarder maintenant, je dirais quand même aussi une autre chose, c'est que, avant de finir, donc la désobéissance civique, il faut la mesurer à l'aune de la répression qu'elle va engendrer pour voir si on va faire des martyrs ou pas. On n'est pas là pour faire des martyrs, on est là pour changer la loi, on est là pour changer un gouvernement. Si on peut s'éviter de faire des martyrs, il faut tout faire pour. On n'est pas là pour faire un acte comme ça, non plus, gratuit. Ça veut dire que si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le moment de le faire. si vous n'avez pas un minimum de soutien de la société pour le faire, c'est très risqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est très risqué. Peut-être vous serez en prison pendant 10 ans, et peut-être ça aura du poids d'être en prison. Mais il faut le mesurer, tout ça. Quand on a commencé les faucheurs, moi je savais que 80% de la population était contre les OGM. Donc j'étais sûr qu'on aurait un soutien. J'étais sûr qu'on aurait un soutien. Puis il y a des moments, il ne faut pas le faire. C'est vrai qu'il y a des moments, il ne faut pas le faire. Donc après, c'est tout le contexte de la non-violence en situation et des actes qu'on peut commettre et des limites, etc., qu'il faut apporter. Mais non, moi, voilà. Je crois que c'est un chemin et que je crains qu'on sera obligé de lui rentrer un peu plus. Parce que, même pour citer les poètes, c'est que Rilke disait qu'en transgressant, ils obéissaient. Je crois que les faucheurs et les autres, même s'ils connaissent pas Rilke, quand ils transgressent les lois, c'est bien parce qu'ils obéissent à quelque chose de profond. Et peu importe la couleur, de quels que soient les mouvements, les idéologies, les églises, les chapelles dans lesquelles ils sont, à ce moment-là, il pose un acte vrai et juste qui fait qu'ils se rassemblent tous et qui fait la particularité des faucheurs, au moins ça, c'est que c'est un collectif où il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de chef. Il y a des responsables, il y a des coordinateurs, où chacun est responsable de ses actes, mais où on se soutient tous. Et je pense que c'est vrai que c'est de la façon dont on saura maintenant s'opposer aux lois iniques, naîtra le gouvernement que nous aurons demain. Je ne parle pas de l'année prochaine. Là-dessus, c'est autre chose. Je veux dire que si on veut construire un avenir, c'est dès maintenant à la façon dont on le fait, à la manière dont on le prend. Les moyens qu'on emploie maintenant, on les retrouvera avec les personnes qui auront su respecter tout le monde pour arriver à ça. Et c'est ça, pour moi, ça c'est le gouvernement de demain. Non, moi je crois que c'est mon option, que la fin et les moyens sont liés, et comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les moyens qu'on prendra pour résoudre nos problèmes. On retrouvera dans les fins ce qu'on aura mis dans le combat. Ça veut dire que ces moyens-là, ils sont pris souvent par des personnes qui voudront conserver, s'ils ont pris le pouvoir par la violence, alors ils voudront le maintenir. C'est pour ça que c'est dangereux pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire, moi, sur la résistance de Gaulle et de la résistance? Mais moi, je préfère ça que de ne rien faire. Hein, entre les deux, je préfère la violence qui fait la résistance que ceux qui laissent absolument tout faire et qui subissent l'oppression. Ça, c'est, pour moi, c'est évident. Il n'y a pas de choix. Je ne vais pas condamner. Je vais laisser les Libyens, je vais laisser massacrer les Libyens parce qu'ils auront pris la violence. Ils ont pris ce choix-là. Je suis désolé. J'aurais préféré peut-être qu'ils fassent autrement. Mais maintenant, on va les laisser massacrer. Et ça nous emmène dans une drôle d'aventure. Mais on va les laisser comme ça. Alors, toi, tu as raison de montrer que... Mais, moi, pour moi, je crois que quand on peut choisir la non-violence, alors, je pense que les fruits seront meilleurs que si on choisit la violence. Mais entre les deux, moi, qu'est-ce que tu veux, Bonhoeffer, pendant la guerre, il était prêt à tuer Hitler. Si tu veux. Ou il faisait partie des gens qui étaient proches du groupe qui allait tuer Hitler. Qui peut condamner Bonhoeffer? Mais qui peut dire c'est pas bien? Pas moi. Moi, j'ai la plus grande admiration pour cet homme-là, tu comprends? C'est vrai que... Mais regardons bien les conséquences des moyens qu'on emploie. En ça, moi, je ne condamne pas. Là, je ne peux pas condamner. On a fait les choix en tant que faucheur parce qu'on pense que la façon démocratique de prendre les choses... Chez les faucheurs, il y a des gens qui sont très proches des faucheurs, parfois qui sont faucheurs, qui fauchent de nuit et qui ne revendiquent pas. On ne les a jamais condamnés. Non. C'est vrai que tout ça, c'est... Moi, je n'ai qu'un désir. C'est que tous les résistants violents et non violents s'entendent entre eux. Et ça, ça ne sera pas simple. Parce que tu as des discours de logique différente là-dessus. Et là-dessus, ça, je le sais. Hein. Donc ça, ça sera très difficile. Parce que le pouvoir récupère facilement la violence pour dénoncer les actions qui sont commises. Les actions de dénonciation commises avec la violence, on les présente toujours. Voyez bien qu'ils veulent tout casser. Et ça, ils justifient quelque part la répression. Alors ça, c'est embêtant. Mais moi, je crois quand même qu'il faut qu'on arrive à trouver à s'entendre entre ceux qui sont, je dirais, partisans de la violence et ceux partisans de la non-violence, parce qu'on est contre tous le système, il va falloir qu'on fasse le boulot de s'entendre. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. La deuxième chose, je l'ai vu chez les faucheurs déjà, parce que j'essaie, on est coriaces quand même entre nous. Hein. Bon. La deuxième chose pour moi, pour être dans le programme positif, c'est de croire à la solidarité comme une réponse. Je crois qu'il faut un programme constructif. Il ne s'agit pas seulement de dire non. À un moment, il faudra bien penser les choses. Même si je dis que je ne sais pas comment ce qui va sortir de la nuit. Et je ne crois pas non plus que c'est une nécessité qui s'arrive à une catastrophe. Ça dépend de nous. C'est pour ça que je suis faucheur aussi. Mais là, je crois à la solidarité. Et je crois que ça aussi, unir tous les solidaires qui travaillent chacun de leur côté pour montrer qu'on peut construire le monde autrement, ça c'est mon deuxième parti, c'est le deuxième point de mon parti politique à moi. Un, unir l'unique membre de mon parti, c'est moi. Mais moi, je crois qu'il faut unir tous les résistants, il faudra unir tous les solidaires. Et le jour où on arrivera à unir les résistants et les solidaires, alors mon programme politique sera complet. Mais c'est, je le dis comme ça, mais je le pense profondément. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je suis très content de t'entendre. Ça va tout à fait dans mon sens.
Oui, je dirais que toutes les personnes qui sont dans la salle, bon, certaines peuvent avoir l'esprit ou appartenir déjà à certains collectifs, certains groupements, mais je pense qu'on a déjà une première responsabilité quant à l'idée, puisque la désobéissance civile a pour objectif de faire avancer la loi dans le sens positif du bien commun et du meilleur pour tous, on va dire, on va aller quand même vers le mieux. Il y a déjà un premier travail, personnel, une responsabilité personnelle, c'est d'abord de s'arrêter et de prendre le temps. Déjà par rapport à la violence de l'information qu'on balance tous les jours, donc c'est déjà un choix personnel. Ensuite, c'est quand on est en possession d'un certain savoir, c'est l'obligation de véhiculer, parce qu'il y a plein de gens qui ont des connaissances dans certains domaines qui ont attrait, justement, on parle des OGM, on va parler d'autres choses, des ondes électromagnétiques, quoi, et qui disent « Oh, j'ose pas en parler parce que, voilà, c'est des gens de mal de prendre. » Donc l'obligation aussi, la responsabilité de faire circuler cette information. Et puis après, quand on parle de groupe et de collectif, sans y appartenir, sans forcément être médiatisé, je pense qu'on peut quand même avoir une action qui est loin d'être négligeable. Je prends l'exemple, par exemple, des élus, parce qu'ils ont quand même un rôle dans le et dans leur application. L'élu, pour certains, sont en effet, on pourrait dire, à la merci de certains lobbies, etc. Mais comme vous disiez, comme dans tous les secteurs, tous ne sont pas comme ça. Et je pense qu'on a aussi un devoir d'informer l'élu quand on a cette information-là. Et en envoyant l'information à une multitude d'élus, c'est-à-dire pas forcément se cantonner à l'élu de sa commune ou l'élu de son département, mais aller aussi au niveau des députés, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, ça peut aussi faire bouger les choses. Alors, je dis pas que ça se fait pas, ça se fait. Mais un citoyen peut y arriver. Et je vais reprendre un dernier exemple qui m'a interpellé. J'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé sur Clairvaux, et cette faire a voulu implanter son antenne. Je ne mets pas aujourd'hui sur la table le problème des antennes relais. Je dis juste ce qui s'est passé, et moi ça m'a interpellé. Initialement, les gens, avant qu'ils apprennent qu'il y a l'antenne qui allait s'implanter, ça s'est fait en plus en douce. Les gens n'étaient pas forcément ni pour ni contre. Et quand ils ont cherché l'information, puisque ça les touchait directement, à partir du moment où ça commençait à nous toucher, on fait l'effort d'aller chercher l'info. Il s'est créé un élan collectif de solidarité et à un moment donné de recherche d'information. Et du coup, on s'est rendu compte que cette étincelle a fait en sorte que 90% de la population des alentours était absolument contre. Donc on s'est rendu compte que finalement, il suffisait juste d'un déclic de 2 ou 3 personnes qui fassent circuler l'information pour que la coalition marche, pour que la source prenne sans forcément que ce soit un groupuscule qui appartienne à quelque chose. Donc voilà, moi je crois que l'information est quand même un nerf important de cette guerre, entre guillemets, non violente. Mais c'est aussi une résistance à cette violence de l'information. Moi je sais que c'est la violence de l'info quand on soit en quotidien. Et il faut arriver à se désengager, se sortir de la position, pas que de la télé, mais aussi de dans les journaux ou autres, dans certains journaux. Et c'est un effort qui est important à faire. et qui est un premier pas que peut faire, entre guillemets, le commun des mortels, qui n'a pas forcément envie d'aller dire je vais défaucher les OGM, mais j'ai déjà un premier pas à faire dans mon investissement, dans ma responsabilité pour faire changer la loi. C'est un point de vue personnel, bien sûr. Ouais,
les jeudis en question, prochain épisode, la semaine prochaine, à la même heure.